Docteur Pascal Lafrogne, bonjour.
Bonjour, bonjour chers auditeurs, bonjour à toute l'équipe de Radio Maria. Je suis très heureux de vous retrouver. Je souhaitais vous parler ce matin de lutte. De lutte, mais plus exactement de combat. Le combat contre la maladie. Combien de fois en consultation ou dans la vie de tous les jours ai-je entendu cette exclamation sur un air admiratif ? Oh, il ou comme elle s'est battue. Parlant de cette jeune femme en réanimation dans le coma, elle se bat quotidiennement. Quelle force ! Ou bien cette réflexion, eh bien il faut être fort, tu vaincras la maladie. Mais le revers de ces phrases signifierait-il que si l'on meurt, c'est faute de combat ? Il y aurait-il des patients, des malades qui se battent plus ou moins bien ? Et si l'on renonce au combat, est-ce qu'il s'agirait alors d'une marque de faiblesse ? Bien sûr que non. Comment peut-on accuser un malade ou parler à un patient en lui disant qu'il est faible ou qu'il manque de force de caractère ? Cette phrase et cette exclamation ne sont pas envisageables. Or, la société, elle, souhaiterait pouvoir affirmer qu'elle est capable de donner à l'homme les moyens de vaincre la maladie. C'est la dérive de la société moderne. Le monde souhaiterait, lui, atteindre cette perfection de n'être plus touché ni accablé par la maladie. Pourquoi ne pourrait-on pas envisager la vie moderne, ultra-moderne, une vie sans douleur, une vie sans souffrance, et pourquoi pas vaincre la mort ? La société, les bien-pensants, la pensée commune, en tenant ces propos, en fait, culpabilise celui qui vit sa maladie. Il lui plaque une vision de ce qui devrait être la maladie, ce qu'est être malade, en fait, en ne parlant jamais que de leur propre angoisse vis-à-vis de la maladie et de la mort, idéalisant ainsi leur propre capacité à se battre ou à vaincre la maladie. Et donc, en disant cela, on parle de nous, mais on ne parle pas à la personne qui est touchée par la maladie et par la souffrance. Pourquoi puis-je me permettre de vous dire tout cela ? Eh bien parce que en écoutant mes patients, en écoutant mes consultants, dans mon quotidien au cabinet, eh bien, ces malades, ces souffrants qui sont par la maladie, éreintés de fatigue, cumulant rendez-vous médical sur rendez-vous médical, passant de pharmacie en échographie, de rendez-vous chez le psychiatre pour passer ensuite en séance de chimiothérapie, eh bien, leur quotidien ne parle que de morphine, de nausées, d'effets secondaires ou d'autres choses. Et en fait, ces patients qui viennent me voir, quelquefois m'expriment que ce qui les fait souffrir encore plus, ça n'est pas leur maladie. Mais ils m'expriment leur souffrance de manquer de pugnacité ou de courage pour vivre leur maladie. Je n'y arriverai pas. Je m'en veux d'être aussi vulnérable, d'être aussi faible. Je voudrais montrer un autre visage à mes enfants. Et je constate quotidiennement combien ces personnes sont épuisées à chercher à contrôler, à vaincre, à combattre, à lutter contre la maladie qui finalement fera son chemin. Alors, cette photo lisse et idéale de la couverture de magazine du combat contre la maladie est une fois de plus une photo qui est retouchée. Elle ne correspond pas à la réalité. Cette image idéale est valorisée par le monde, mais elle est à l'origine. Cette image lisse de la photo de couverture est idéale, mais cette photo est aussi à l'origine de combien de souffrances. Quand le malade ne se voit pas dans cette photo, ne se reconnaît pas. Et il, si vous voulez, cet écart entre ce qu'il vit et ce qu'il voit, eh bien, le fait souffrir, puisqu'il se rend compte qu'il ne correspond pas à cette norme combative et victorieuse. Alors oui, il faut battre en brèche les idées reçues comme, eh bien, si l'on ne se bat pas, eh bien, on a moins de chances de guérir. C'est absolument faux de présenter les choses ainsi. Il y a peut-être une part de vérité, mais en tout cas, la phrase dit comme cela, elle est fausse. Être triste quand on est malade signifierait que l'on ne souhaite pas se battre. Et à ce moment-là, c'est un mauvais état d'esprit. Non, la volonté, la détermination, la combativité ne peuvent rien contre une insuffisance cardiaque, contre un diabète, contre un cancer, une dépression ou une addiction. Si c'était le cas, je vous l'ai déjà dit au cours de ces émissions et je les répéterai, si la volonté avait quelque chose à voir avec la maladie, ma salle d'attente serait complètement vide. Qui peut vouloir être malade ? Quel est le malade qui ne veut pas guérir ? La volonté, malheureusement, est insuffisante et elle est impuissante face à la maladie. Être malade ou mourir signifierait que l'on manque de volonté. Cela ne tient pas. La question ne se pose pas ainsi. La maladie, le traumatisme, la mort font irruption dans la vie de façon subite. C'est-à-dire que celui qui la vit y est soumis. Il y a un avant et il y a un après. Et personne n'y peut rien. Le malade est soumis à sa maladie et il va lui falloir vivre avec ce nouveau compagnon, la maladie. Alors, cela voudrait-il dire qu'il faut se résigner ? Personnellement, je vois dans ce mot une connotation trop négative, laissant la maladie envahir ma vie. Ma maladie prend déjà beaucoup de place. Mais il persiste encore des îlots, des sanctuaires de tranquillité, qui sont, eux, préservés de la maladie. Prendre un café avec mon conjoint, tenir la main de mon petit-fils, échanger un regard complice avec ma sœur, etc. Se résigner laisserait la maladie recouvrir ces îlots de tranquillité et ces îlots de bonheur. Alors, faudrait-il accepter. Bien, je pense que, personnellement encore, la maladie n'est pas acceptable par nature. Comment peut-on demander, exiger d'un malade qu'il accepte sa maladie ? Cette maladie, ça peut être une maladie de Parkinson, un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. Comment puis-je également m'imposer à moi d'accepter cette maladie, me reprocher de ne pas accepter cette maladie, alors que mes propres projets, mes projets conjugaux, mes projets familiaux, professionnels, personnels, volent complètement en éclats à l'annonce du diagnostic. Comment puis-je m'exiger cette acceptation ? Non, ça n'est pas de la résignation, ça n'est pas de l'acceptation. Le mot qui me paraît le plus approprié à ce jour, et je pourrais avoir un regard qui change dans les mois, les années qui viennent, à la lumière des échanges que je peux avoir avec mes patients, l'expression qui me paraît la plus adaptée à ce jour et que je découvre en accompagnant donc ces patients, c'est plutôt de dire « vivre avec » ou « composer avec ». La maladie. Ma vie, elle reste là. Mais elle est là. J'ai des choses à vivre. Je me réveille, je me couche, je dors ou je cherche à dormir quelquefois. Je dois me reposer, je dois boire, je dois manger, je dois échanger, je dois être en relation. Et il me faut vivre cette vie. Mais cette vie, elle est désormais accompagner. Il me faut avancer pas à pas, jour après jour, dans cette vie, mais avec et non pas contre la maladie. Je dois avancer avec la maladie et non pas malgré ma maladie. Et la qualité de chaque instant vécu sera privilégiée. L'essentiel, le plus important, chassant d'un revers de main ce qui est superflu, pour vivre désormais le meilleur de chaque moment qui me sont donnés, de chaque moment qui m'est donné de vivre. Voilà. Alors, dans le cadre de cette émission, nous sommes invités également à regarder cette situation dans le regard de Dieu. Comment notre foi peut-elle éclairer cette situation du combat, de la lutte, et finalement de composer avec la maladie? Alors revenons à la Genèse. La maladie et la mort sont entrées dans le monde avec le péché originel. Au moment de la création, la mort et le péché n'existaient pas. Maladie non plus. Et l'homme, cherchant à rompre la relation d'amour que Dieu proposait à sa création, l'homme imaginant qu'il pouvait se passer de Dieu, le péché originel, l'homme a été marqué du péché originel. Et depuis cet instant, Dieu notre Père, notre Créateur, n'a de cesse que de nous retrouver dans cette harmonie originelle à la fin des temps. Et pour cela, il nous a envoyé son propre Fils, qui est mort, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité pour chacun d'entre nous, en se faisant pécher alors qu'il n'était pas pécheur, et en vivant cette passion et cette résurrection, il nous amène pour nous extraire de notre condition humaine, pour nous amener auprès du Père, et que par ce faisant, le Fils et nous allons combler le cœur du Père de joie et de fait manifester au monde sa gloire éternelle. Et ne regardez que la maladie, que la mort, ces aspects très matériels. Eh bien, le fait de ne regarder que cet aspect-là nous amène finalement à détourner notre regard du Christ, qui lui est notre Sauveur. La maladie, la mort, la souffrance, nous l'avons vu avec la lettre de Saint Jean-Paul II, Salvifici Doloris. La souffrance, la maladie sont indissociables de la condition humaine. Ils font partie de la vie. Être surpris de souffrir, ça n'est pas prendre conscience de la réalité de notre vie. Et finalement, la maladie, la mort, la souffrance sont des moyens qui nous permettent de nous plonger dans le regard du Christ. Ce sont des moyens qui nous permettent de plonger dans ses plaies sacrées. Ce sont des moyens qui nous permettent de nous plonger dans son cœur miséricordieux. Et là, c'est le vrai combat. Contre cette tentation de quitter le regard du Christ, de ne regarder que mes douleurs, que mes désespoirs, que mes doutes, eh bien, c'est de ça dont il va falloir que je me méfie, de cette tentation-là. Contre tous ces ennemis, il me faut lutter. Mais nos ennemis ne se nomment pas essoufflement, douleur, fatigue, paralysie, confusion, brûlure ou hémorragie. Non, nos vrais ennemis, ils se nomment manque d'espérance, un manque d'espérance de la résurrection qui nous a été obtenue par le Christ. Nos vrais ennemis, ils se nomment manque de foi en Jésus qui est Verbe fait chair, notre Sauveur et notre Dieu. Voilà notre ennemi. Nos ennemis, ils se nomment manque de charité. En me coupant de la relation d'amour que Dieu et le Christ veut établir avec moi. Et quitter cette authentique relation d'amour que Jésus me propose dans son Sacré-Cœur qui a été transpercé. Notre ennemi, finalement, c'est celui qui désire nous couper de Dieu. Le diviseur, dit-on. Il veut nous couper du Christ. Il veut nous couper de l'action du Saint-Esprit. Là, c'est son seul désir. Le diable, le diviseur, diabolos, c'est son désir, c'est son ambition, c'est son seul et unique objectif, nous perdre dans une mort éternelle. Alors, finalement, il ne faut pas chercher à nous battre contre la maladie, mais bien nous battre pour notre salut éternel. Pour notre salut éternel auprès du Père et pour que ainsi soit manifestée sa gloire. Nos corps, eh bien, même abîmés, ils seront ressuscités par le Christ à la fin des temps. Alors, certes, tout cela, tout ce que je dis ce matin, confortablement installé dans le studio de Radio Maria et sur ma chaise, tout cela est bien beau. Mais le quotidien des douleurs, le quotidien des larmes, tout cela est quand même bien difficile à vivre. Oui, c'est vrai. Mais nous venons aussi de vivre la semaine dernière toute l'horreur, la cruauté, l'injustice de la croix, qui nous permet de, qui est le moyen d'accéder à la lumière éclatante de la résurrection du Christ, qui nous comble de joie et qui comble de joie le monde. Là est notre espérance, là est notre foi, là est la marque suprême et parfaite de l'amour. Et c'est cela, rien de tout cela, de cette espérance, de cette foi et de cette charité, rien ne doit nous en éloigner. Le Christ lui-même a mené ce combat et il a vaincu définitivement la mort, la souffrance et le péché. Alors à notre tour, à l'imitation du Christ, eh bien menons le bon combat, le seul combat pour notre salut et pour le salut du monde.
Docteur Pascal Lafogne, nous avons deux auditrices qui souhaiteraient intervenir. Il y a tout d'abord Isabelle. Isabelle, c'est à vous.
Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour docteur.
Je vous écoute.
Je voulais donc témoigner déjà et puis être totalement d'accord avec ce que vous venez de nous dire. J'étais très jeune, je ne le suis plus maintenant. Les années ont passé. J'ai eu une maladie qui a été soigné par erreur pendant 7 mois. Je vous le dis, c'est une maladie pleurésie. Donc j'ai reçu un traitement pendant 7 mois qui était la cortisone, Cortensil à l'époque. Et donc voilà, ça m'a fait du tort dans mon corps. Mmh. Et après, quand vraiment je suis retombée malade vraiment, qu'ils ont découvert que je viens de pleurésie, et ils m'ont dit que, bon, c'est là que les docteurs ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, vous avez eu la pleurésie dès le départ. OK. Sur ce, c'était tellement mal dans ma tête que je n'acceptais pas la maladie. Je faisais du cinéma. Alors, en faisant du cinéma, ma maladie, elle regressait plutôt qu'au lieu d'avancer dans la guérison. Mais j'étais jeune, je l'ai compris plus tard. Mais quand même, j'ai eu une bonne attitude qui est venue du ciel. C'est que dans cet hôpital que j'ai été bien soignée, il y avait donc à l'époque encore le Christ sur le mur, à côté de mon lit. Il y avait aussi une chapelle où j'allais faire ma gymnastique pulmonaire. Je passais devant cette église, cette chapelle. Et mon intuition, il me disait, j'ai toujours été catholique et priante, j'ai dit, allez, va prier, ça va t'aider. Et bien oui, ça m'a aidé. C'est bien qu'ils m'ont donné des médicaments pour dormir, parce que je ne dormais pas, dans ce tracas. Et finalement, ça ne m'a pas fait dormir, au contraire, nuit blanche. Je me suis passé le médicament. Et je priais. Et bien, ça, là, ce qui est côté nerf, hein, parce que c'était nerveux, là. Ça passait. Et la maladie, je l'ai pris comme elle était, et puis voilà. Et maintenant, je parle de plus récemment, il y a quelques années. J'étais très, très mal dans ma tête, dans mon corps. Et les médecins disaient que c'était dans la tête, mais je savais bien que c'était pas dans la tête. Et enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé, qui ne prend pas d'argent, mais qui avait confiance en Dieu et que ça m'a aidé énormément. Et donc, un jour, dans mes douleurs encore, je me disais, allez, tu devrais prendre un cachet. Et puis, j'ai dit, non, tu ne le prends pas, parce que tu crois à Marie qui vient t'aider et qui t'aidera. Tu ne prends plus rien de médicaments. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même. Dieu merci. Voilà ce que je voulais vous dire, que je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Et quand j'ai des douleurs, j'ai dit, mon Dieu, ben, tu fais avec, hein? Voilà.
Merci Isabelle pour votre témoignage. Oui, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. C'est vrai que la difficulté de ce combat contre la maladie, c'est que par nature, nous l'avions vu à l'occasion de la lecture de Salvifici Doloris, il y a ce hurlement, ce cri qui jaillit de notre cœur. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Face à la maladie, il y a quelque chose qui n'est pas, on le disait tout à l'heure, qui n'est pas acceptable, qui est une véritable injustice. Injustice. Oui, et donc, face à quelque chose qui est par nature injuste, il est extrêmement difficile de se battre parce que de toute façon, on ne va pas changer, même avec le combat, la nature injuste de la maladie. Mais attention, quand on dit injuste, il n'y a pas de situation où la maladie est juste. On ne peut pas dire à aucun moment, ah ben lui, il l'a bien mérité, surtout pas.
Non,
donc, par nature, la maladie est injuste. Donc, c'est un combat. Par exemple, réparer l'espèce de justice de la maladie, ben c'est un combat perdu d'avance. Alors dans ce que vous dites Isabelle, effectivement, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier que dans la maladie, eh bien, nous ne sommes pas enfermés dans la maladie et notre vie ne se résume pas à notre état de malade et nous ne sommes pas que malades, nous sommes un être, une personne qui est dans le plan de Dieu et qui doit vivre son état humain, mais aussi sa nature d'être, de personne à l'image de Dieu. Et il faut vivre de cet amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Alors en tant que médecin, il y a quand même quelque chose que je tiens à rappeler pour nos éditeurs, parce que bon, vous Isabelle, vous avez ce témoignage où la prière vous a aidé, etc. Mais j'insiste aussi en tant que médecin pour dire à nos éditeurs qui, eux, quelquefois ont besoin de soins, de ne pas renoncer à se soigner. Il est très important aussi de continuer à se soigner, mais de ne pas oublier que Dieu, le Christ, est le principal et le meilleur médecin, et le médecin par excellence, dans la perfection, et que lui, soit directement, soit par les médicaments ou par les soignants, va nous guérir, va nous consoler, va nous soigner. Mais voilà, il faut trouver une juste composition entre les deux, c'est-à-dire, ben, par exemple, par rapport à une douleur, vous dites, eh bien, quand j'ai une douleur, je l'accepte, etc. Eh bien, si cette confiance en Dieu vous permet de vivre et de vivre avec cette douleur et de composer avec la douleur, eh bien, très bien, c'est cet équilibre-là qui est important, que vous vous sentiez bien. Mais il y a des gens qui ont aussi besoin de médicaments et il ne faut pas renoncer à se soigner, calmer la douleur, par exemple, une douleur, par exemple, osseuse. On a besoin de médicaments assez puissants, quelquefois même de morphine. Bon, il ne faut pas renoncer aux soins, mais l'annonce de ce matin, cette émission, c'est de dire, attention, il n'y a pas que le soin. N'oublions pas notre médecin.
Oui.
Voilà.
C'est ça.
Merci.
Bien.
Merci beaucoup, Isabelle.
Et donc, je voulais juste rajouter que si j'évite de prendre des médicaments par la pharmacie, je prends beaucoup à base de plantes. Je fais de la prévention. Voilà.
Merci beaucoup.
Je sais bien. Merci beaucoup, docteur.
Je vous porte dans mes prières. Au revoir, Isabelle. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et nous avons Christiane. Christiane, c'est à vous.
Bonjour, Christiane.
Oui, bonjour, docteur. J'ai deux petites choses. Alors, la première, mon mari a été malade. Il est mort du cancer de la prostate. Et en fait, il a dit à une amie, j'ai jamais été aussi heureux que ces deux dernières années, parce qu'en fait, il avait rencontré Marie vraiment d'une façon très spéciale et tout. Donc, en fait, c'est ce qu'il lui a dit. Et c'est vrai que, bon, il se plaignait pas ni rien. Il était déjà très dur de toute façon pour contre la douleur, mais pour dire que, en fait, avec le Seigneur et tout, il s'en est de plus en plus rapproché et qu'il a été encore plus heureux à ce moment-là. Mmh. Et la deuxième chose, alors c'est pour moi. Bon, moi j'ai plusieurs maladies, mais en même temps, alors quand je vais un petit peu mieux, je me dis bon, ça y est, ça va. Alors je fais plein de choses, etc. Et puis tout d'un coup, pouf, ça me rappelle que non, ben je suis malade. Alors en fait, je suis un petit peu perdue entre les deux et je ne sais pas toujours bien comment réagir parce que j'aime pas non plus rester sans rien faire. Et puis là, j'avais fait une phlébite, j'ai été obligée de rester 3 semaines avec la jambe en l'air. J'avais pas le droit de sortir, marcher dehors et tout ça. Donc ça m'a manqué quand même si je vais pas très loin. Mais en fait, vous voyez, j'arrive pas bien à trouver un équilibre entre je suis normale et je suis malade. Mmh. Et j'ai du mal là-dessus. Je sais pas si vous pourriez me donner un conseil.
Merci Christiane. Oui, alors, sur le témoignage de votre mari, en fait, quand il témoigne qu'il a été heureux, jamais aussi heureux, il oui. accède à une forme de joie parfaite, hein, comblé de joie par Marie. Oui. Alors, Marie est elle-même comblée de joie, hein, donc c'est normal qu'à la rencontre de Marie, nous soyons nous-mêmes comblés de joie. Mais ce que j'entends derrière tout ça, c'est qu'effectivement, cette épreuve de la fin de vie, finalement, dans la lumière de Marie, dans la lumière du cœur de Jésus, nous permet de prendre conscience de la vocation ultime et parfaite de l'homme. Et c'est probablement ça qui a comblé le cœur de votre mari. C'est que, d'un seul coup, par Marie et par le Christ, eh bien, on prend conscience de quelle est ma vocation profonde. D'un seul coup, le sens de la vie prend... c'est comme si un nuage se dissipait et on prend conscience du sens de la vocation de la personne, de l'homme, qui est créé à l'image de Dieu, qui a été créé de Dieu et qui, dont la finalité est de rejoindre Dieu.
Et je pense qu'il a d'ailleurs trouvé aussi beaucoup de paix parce qu'il a vécu une enfance, même étant plus adulte et tout, il a vécu des choses très très difficiles et il n'arrivait pas à les gommer de sa tête. Hein. Mais et là, vraiment, c'est à ce moment-là, je pense qu'il, comme vous dites, était dans une grande paix.
Voilà, et c'est ce qui est de mystérieusement douloureux, mais absolument lumineux, hein, ce que Saint Jean-Paul II est décrit très très bien dans cette lettre, Salvi Ficti Doloris, où finalement, au travers de cette épreuve ultime de la souffrance et de la fin de vie, eh bien, la lumière de la vérité, de la vocation de l'homme créé à l'image de Dieu prend sens. Et ça, c'est complètement apaisant parce que, en fait, ça efface complètement toutes les blessures, même si elles sont très profondes et très douloureuses. Eh bien, on accède à quelque chose qui est encore plus grand, qui est le destin que Dieu a pour moi, qui suis sa créature. Alors, pour la deuxième partie de votre question, la vie est faite de moments où l'on va bien et des moments où l'on va pas bien. Les gens qui ne sont pas malades vivent aussi cette fluctuation, alors que ce soit dans l'état de forme physique. Des fois, on est bien dans notre corps et puis des fois, on se sent un petit peu plus fatigué. On est aussi dans l'état psychologique. Hein. Des fois, on est un petit peu euphorique, prêt à tout griller, à tout manger, à tout conquérir le monde. Et puis des fois, on est un petit peu plus éteint et les journées sont un petit peu plus longues. Bon, et effectivement, quand la maladie est là, eh bien, cette variation existe aussi, où il y a des jours où ça va un petit peu mieux et puis des jours où ça va un peu moins bien, même beaucoup moins bien. Alors, quand je vous ai écouté, Christiane, j'ai pensé à ces mots que l'on prononce dans les exercices de Saint Ignace, où il y a des moments de consolation et de désolation. Et les moments de consolation sont des cadeaux de Dieu. Et les moments de désolation, nous vivons notre nature humaine, ça n'est pas un cadeau de Dieu, c'est pas Dieu qui nous comble de désolation, sûrement pas, c'est notre nature humaine qui reprend le dessus. Et en fait, Saint Ignace nous conseille de prendre des réserves, pendant les moments de consolation, de façon à traverser les moments de désolation.
D'accord.
Et sachant que après toute désolation, il y aura toujours une consolation. Toujours.
Oui. Oui, oui.
Jusqu'à la dernière. Et à la dernière, le dernier mouvement cyclique se finira par une consolation d'être auprès du Père.
Oui.
Toujours. Donc, si vous voulez, ce qui serait terrible, c'est d'imaginer que notre vie va se finir par une désolation éternelle. Et ça, ce serait l'enfer et être coupé de Dieu. Mais à partir du moment
voilà. Moi, ce n'est pas encore jusqu'à ce point-là, parce que j'étais malade depuis l'âge de 6 mois, j'ai eu toutes sortes de choses, donc disons que ça c'est un petit peu, le bon Dieu m'a déjà formé.
Voilà.
Mais c'est plutôt, même des fois, je pense aussi des fois ça peut être les médicaments, parce que dans un moment de la journée, je vais être très bien, je vais avoir une grande confiance, j'ai peur de rien, et deux minutes après, ça va être l'inverse.
Oui. Alors, dans ces cas-là, il faut tenir. Hein. J'ai une image qui me vient à la tête. C'est le marin qui est sur son voilier et qui traverse un grain, qui traverse une tempête. Eh bien, il faut qu'il s'arc-boute à sa barre, qu'il règle bien ses voiles et puis qu'il tienne bien son cap. Et puis, il va traverser le grain.
Et je répète souvent. Alors, maintenant, j'avais reçu un petit signé avec Sainte Thérèse, que j'aime beaucoup. Et elle dit « Confiance, c'est la main de Jésus qui dirige tout ». Alors, quand ça ne va plus dans ma tête, c'est ce que je dis.
Voilà. Seigneur, prends la barre. Et
après, ça revient, ça calme.
Et exactement. Il y a une grâce que l'on demande au quatrième mystère douloureux. Hein, c'est la grâce de la patience dans l'épreuve et l'abandon à la divine providence. Tenir la patience dans les épreuves et traverser la tempête. Parce que derrière la phlébite, derrière la poussée d'insuffisance cardiaque ou derrière la crise d'asthme, ben, il y aura un mieux-être. Voilà. Et de toute façon, on ne voit pas la fin de la tempête, etc., de toute façon, à un moment donné, à la fin des fins, il y aura le mieux-être final qui sera d'être auprès de Dieu par Jésus et avec la main de Marie. Donc, si vous voulez, ça, c'est une bonne consolation.
On est protégé,
ça vaut le coup.
Oui.
Je vous remercie,
beaucoup,
Christiane. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Nous avons reçu deux messages. Bonjour Radio Maria, bonjour docteur. Merci pour votre intervention sur le combat contre la maladie physique, psychologique, mais aussi spirituelle. Ce combat consiste à prendre en compte l'homme dans toutes ses dimensions, puisque nous ne sommes pas des anges. Merci encore, docteur, pour ces précisions, car dans le combat contre la maladie, d'autres courants chrétiens ne prennent pas en considération que le combat spirituel, ce qui peut être parfois déplorable. Et c'est signé une autre Isabelle.
Merci Isabelle. Oui, nous sommes faits de chair. Et c'est le plan de Dieu. Donc il faut prendre soin de notre chair. Et notre chair est marquée du péché originel. Donc elle peut tomber, elle peut chuter, elle peut être abîmée. Mais aussi, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres divinisés par Jésus. Et nous avons ces deux composantes qu'il faut vivre, dont il faut vivre. Il faut les vivre. Et il ne faut pas laisser prendre qu'une part prenne le pas sur l'autre.
Et nous avons également reçu un message d'une personne qui a souhaité rester anonyme. Bonjour, merci pour votre émission. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi des médecins n'encouragent pas à se faire vacciner? Quel est votre avis? Merci pour votre réponse. Alors, petite précision, cher auditeur ou chère auditrice, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Oui, c'est une vraie question, mais je ne vais pas m'étendre là-dedans. Je pense que ça dépasse l'aspect purement médical et scientifique, et il y a des courants de pensée, etc. Et bon, voilà, je pense pas que c'est une vraie question et qui mériterait une réflexion, une réponse. Mais c'est pas si simple que ça. Nous sommes face à une maladie, à des virus, et nous devons nous en sortir. Ça, c'est une vraie chose, une vraie réalité. Non, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui. En préparant cette émission, j'avais écrit ces petites réflexions, et puis je suis tombé sur un article d'Aletheia tout récemment, qui a été écrit le 31 mars à propos d'un témoignage, d'une belle histoire, et qui racontait l'histoire de Antonio Senna, qui est un pilote brésilien qui a dû atterrir d'urgence dans la forêt amazonienne. et qui a dû marcher pendant 36 jours au travers de la jungle pour finalement être secouru. Et il dit que la foi l'a sauvé. Il survit plus d'un mois en traversant la forêt amazonienne. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais en fait, je me trompe complètement, parce que je vais vous lire la fin de son témoignage. Mais la bataille est la nôtre ici, vous devez donc vous battre. Et je me suis dit, Pascal, t'as rien compris. En fait, le combat, c'est nécessaire, etc. Et puis, finalement, quand on relit bien le témoignage d'Antonio Senna, en fait, il dit bien que l'amour que j'avais pour ma famille m'a fait continuer chaque jour, mais seule la foi en Dieu m'a fait croire que je sortirais de là. Et le combat dont il parle, c'est un combat qu'il a mené, c'est-à-dire que chaque jour, pas à pas, il a continué de traverser la forêt amazonienne, mais non pas en se battant contre la difficulté de la jungle, en croyant ou pas dans ses forces musculaires, etc., mais en étant dans la confiance en Dieu et qu'il était en train de faire la volonté de Dieu, quelle que soit l'issue de ce voyage au travers de la forêt amazonienne. Et en fait, il finit en disant à ceux qui traversent, donc que cet événement a bouleversé le pilote et lui a ouvert les yeux sur l'importance de la foi, et il dit « À ceux qui traversent des épreuves, je ne sais pas dans quelle forêt vous vous trouvez, ni quel est le problème, mais n'abandonnez pas. Ayez foi en Dieu. Faites-lui confiance. Remettez votre vie entre ses mains et continuez à marcher, continuez à vous battre pour que Dieu vous accorde la victoire. » Voilà. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que le combat, c'est Dieu qui me donne la victoire. Et c'est en regardant Dieu, je me bats pour le salut, pour Dieu. Je me bats pas contre ma misère et contre mes faiblesses et contre ma maladie. Combien de j'ai des consultations qui me reviennent en tête, des gens qui étaient en burn-out, en dépression, en crise d'angoisse ou même au fond de l'alcool et qui me disaient « mais j'essaye de me battre et je n'y arrive pas ». Et c'était peine perdue, parce que contre l'alcool, c'est simple, mes propres forces me manquent. Et il va falloir me soigner, il va falloir, c'est vrai, et puis il va falloir aussi regarder au-delà du grain, de la tempête, et puis traverser la tempête, et croire dans l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux de Dieu, de Marie, de ce cœur de maman, qui est le cœur maternel qui est là pour nous aimer, et nous relever, nous accompagner, et nous amener au Christ. Et c'est ces deux composantes qui vont nous permettre de sortir de tout ça.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Pascal Lafogne. On vous retrouve donc pour une prochaine émission sur un autre thème.
Je vous souhaite un bon octave et un saint octave Pascal à tous. Je vous porte dans mes prières. Au revoir, Sandra.